La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. C'est une grande joie de vous retrouver au culte de ce dimanche pour placer ensemble nos vies devant Dieu. Aujourd'hui encore, nous gardons de bonnes raisons de croire, de penser et d'espérer que ce n'est pas en vain que nous le faisons, parce que nous trouvons en lui, selon les expressions de nos vieux psaumes, abri dans la détresse, lumière sur nos sentiers, soutien dans la vie, mais aussi, et ce n'est pas rien, une communauté, une communion que le Seigneur rassemble et dans laquelle, à travers laquelle, il se rend présent. Alors je veux saluer Vincent Thévenat qui nous accompagne à l'orgue. Vous aurez reconnu une magnifique improvisation sur le cantique que nous allons chanter dans un instant. Saluer aussi Yvette Matta qui va lire aujourd'hui les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui sont proposés à la méditation de tous les chrétiens dans le monde. Et c'est maintenant avec une prière de la tradition de l'Église, une prière que nous devons à un patriarche d'Antioche du IIIe siècle, Sérapion, que je vous propose de nous tourner vers le Seigneur. Nous te prions, Père du Fils unique, Seigneur de l'univers, Créateur de toutes choses, fais-nous miséricorde et rends-nous meilleurs. Fais grandir en nous la force, la foi, la connaissance. Et nous t'en prions, envoie ton Saint-Esprit dans nos esprits, afin que nous comprenions les divines Écritures que le Saint-Esprit a inspirées, et de les interpréter comme il le faut pour le salut de tout le peuple ici présent. Par ton Fils unique, Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit, par lui, à toi, la gloire et la puissance, dans les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre chant de louange, c'est le cantique numéro 20, et nous en chantons les strophes 1, 2 et 5.
Allégresse, nous louons sans cesse.
Et nous poursuivons notre louange au psaume 25. Ô Éternel, vers toi j'élève mon âme. C'est en toi que je suis venu me confier. Fais que je ne sois pas déçu. Et fais-moi connaître tes voies, ô Seigneur. Conduis-moi sur tes sentiers. Dirige-moi dans la vérité. Instruis-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Et c'est en toi que j'espère tout le temps. Souviens-toi de tes bontés et de tes grâces, car elles existent de toute éternité. Quant aux erreurs de ma jeunesse, mes fautes, oublie-les. Juge-moi selon ta miséricorde. Pour l'amour de ta bonté, éclaire-moi. L'Éternel est bon et droit. Il ne fait pas de coups tordus, et c'est ainsi qu'il nous montre le vrai chemin. Il dirige les gens modestes, il instruit les analphabètes, il récupère les égarés. Toutes les voies de l'Éternel sont grâce et bienveillance. Prions. C'est justement parce que tu es grâce et bienveillance, Seigneur, que nous nous tournons vers toi avec confiance pour te remettre tout ce qui nous sépare de toi, malgré nos élans sincères de demeurer enracinés dans ton amour. Alors nous te demandons pardon pour tout ce qui perturbe nos relations, tout ce qui les envenime, tout ce qui les aliène. Nous te demandons pardon pour les fautes d'inattention, mais aussi les attentes excessives que nous pouvons avoir les uns vis-à-vis des autres. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous réduisons au lieu d'élargir, où nous enfermons au lieu d'ouvrir. Nous te demandons pardon enfin parce que nous avons toujours quelque chose à nous faire pardonner. Mais nous ne rougissons pas de le faire parce que c'est une manière, et tu le sais, de labourer nos champs, d'en arracher ronces et mauvaises épines, de les nettoyer de tout ce qui empêche ta parole d'y croître. C'est pour cela que chaque jour et chaque dimanche, nous sarclons, nous bêchons et nous essayons d'éliminer tout ce qui vient empêcher les fruits de la grâce qui peuvent croître en chacun et en chacune d'entre nous. Amen. Et je vous invite à vous associer à cette prière par le chant. C'est le cantique 35. Il a deux petites strophes, mais qui sont des prières. Seigneur, accorde-nous ta grâce, viens nous bénir et prends pitié.
Seigneur, accorde-nous ta grâce, viens nous bénir et prends pitié. Sauveur et roi, que chacun t'adore. Tu juges l'homme avec droiture. Les peuples sont guidés par toi. L'on voit partout dans la nature l'ordre immuable de tes lois. Les mondes sont couverts de fruits, les vivants te craignent, tu viens dans ton règne, tu nous l'as promis.
Nous restons debout pour recevoir les paroles de grâce et vous pouvez préparez vos psautiers au cantique 407 qui va accompagner aussi la grâce. Chaque page de la Bible nous confirme que si nos cœurs nous condamnent, Dieu nous acquitte. Il nous affranchit et il nous renvoie libres sur les chemins de la vie. C'est ce qui nous oblige à garder encore plus précieusement sa parole dans nos cœurs et conformer nos vies à ce qu'il attend de nous. L'aimer de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Nous chantons au 407 les deux strophes de la grâce. C'est lui, notre Dieu, qui nous rend joyeux.
Dieu qui nous rend joyeux, lui qui nous fait voir un plus grand espoir, qui met dans nos cœurs un plus vrai bonheur. Il tient dans sa main tout le genre humain, sur nous son amour veille nuit et jour, tous unis nous unis frères. Ici-bas comme au ciel déjà, qu'il mette en nos mains chaque jour le pain, qu'il nous fasse don d'un entier pardon. À nos ennemis pardonnons aussi, nos cœurs soient gardés quand ils sont tentés, qu'il nous rende enfin libre du malin.
Nous prions. Ô Dieu souverain, si grand et si proche, donne-nous un cœur vivant, des yeux nouveaux pour te reconnaître, t'accueillir quand tu viens à nous. Ouvre nos oreilles afin que nous captions au mieux les paroles qu'aujourd'hui tu nous envoies. Amen. Nous écoutons dans la Genèse au chapitre 18 les versets 1 à 8. Abraham, visité par des anges. L'Éternel apparut à Abraham aux chênes de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regarda et vit trois hommes qui se tenaient debout devant lui. Dès qu'il les aperçut, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit : Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ces arbres. J'irai chercher un morceau de pain et quand vous aurez repris des forces, vous continuerez votre chemin. Car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham rentra aussitôt dans sa tente auprès de Sarah et lui dit, « Vite, pétris 3 mesures de fleurs de farine et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna au serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit aussi du beurre et du lait, et avec le veau qu'on avait préparé, il le leur servit. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Nous poursuivons par le psaume 15, versets 1 à 3. L'homme intègre a seul accès auprès de Dieu. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité telle qu'elle est dans son cœur. Celui dont la langue ne sème point la calomnie, celui qui ne fait pas de mal à son semblable et qui ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Dernière lecture dans l'Évangile de Luc, versets 38 à 42 du chapitre 10. Rencontre avec Marthe et Marie. Comme ils étaient en route, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire ce service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part et elle ne lui sera point enlevée. Amen. » Je vous invite à chanter debout le cantique 406, les strophes 1 et 2.
Au cœur de l'été, quand nos vacances nous mènent souvent en visite les uns chez les autres, vers des membres de nos familles ou des amis que nous ne voyons guère le reste du temps, au cœur de l'été qui demeure un espace favorable à bien des rencontres plus ou moins insolites et à quelques divines surprises, voici deux récits bibliques qu'apparemment tout oppose, et qui nous parlent pourtant l'un et l'autre de rencontres, d'hospitalité, de service, et c'est la raison pour laquelle je vous en propose ce matin une lecture croisée. Apparemment, je l'ai dit, je le répète, tout oppose Abraham, le célèbre patriarche de l'Ancien Testament, et Marthe, l'industrieuse du Nouveau Testament. L'un est le père des croyants, peut-être parce qu'il sut un jour larguer les amarres, quitter famille et patrie et amis, partir à l'aventure sur l'appel du Très-Haut, sans savoir exactement où ses pas le mèneraient. Abraham, c'est l'homme de la route, l'homme qui marche porté par la promesse que la grandeur n'est pas derrière lui, mais devant lui. Abraham aurait très bien pu signer cette phrase de Goethe « C'est pour savoir où je vais que je marche ». Pour le patriarche qui sillonnera les déserts du Moyen-Orient, l'identité se découvre au fil du chemin. Et il est donc, par nature ou par choix, le nomade par excellence, l'homme de la tente, du campement, de la halte provisoire. Marthe, elle, où qu'on la trouve dans l'Évangile, est son exact opposé. Non seulement parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle est par excellence la femme à la maison, la gardienne du foyer, celle que l'on trouve toujours avec un balai à la main et qui, si vous avez le malheur de la contrarier, troque son balai pour son rouleau à pâtisserie. Quand elle sort, et si elle sort, elle ne va guère plus loin que le pas de sa porte, et si vous la franchissez, cette porte, vous avez intérêt à vous essuyer les pieds avant d'entrer. Son identité, c'est fatal, tient dans les trois premières lettres de son nom, Mar, qui ne signifie pas « j'en ai marre », mais qui signifie dans sa langue originelle, l'araméen, quelque chose que l'on pourrait traduire aujourd'hui comme « dame patronesse », si on n'est pas très gentil, ou « maîtresse femme », si on est charitable. C'est exactement ce que signifie cette racine « mar » en araméen. D'ailleurs, la tradition ne s'y est pas trompée, qui la représente toujours tenant dans ses mains les clés de sa maison et dans l'autre une marmite et une louche. C'est aujourd'hui encore la sainte patronne des ménagères et des hôteliers. Donc en effet, une première lecture pourrait amener à conclure qu'un abîme infranchissable sépare le patriarche aux semelles de vent, seigneur libéral et prodigue de ses biens, de la triste matrone de l'Évangile qui, quand elle donne, le donne en vous faisant bien comprendre ce qu'il lui en coûte. Au-delà de ce qui les sépare, pourtant, quelque chose de bien plus profond les unit. Un peu comme nous, si vous voulez, qui, par nos convictions politiques, nos manières de vivre, d'ouvrir ou de fermer nos portes, de dépenser ou d'épargner notre argent, pouvons être tellement différents les uns des autres, si différents de celui-là même, de celle-là même qui se tient en ce moment même à côté de vous sur le banc de cette cathédrale. Mais quelque chose de plus fort que toutes ces différences vous unit et nous unit les uns aux autres, c'est précisément ce qui relie Marthe, la femme au foyer, et Abraham, l'homme des grands espaces. Eh bien, ce qu'ils ont en commun, c'est leur foi en Dieu. Et elle s'exprime ici de manière très simple, transparente, très directe. Ils voient plus large et plus profond que ce qui se donne à voir. Ils voient l'au-delà dans les visages d'ici-bas. Si bien que l'un et l'autre ne sont pas plus étonnés que cela de croiser Dieu au seuil de leur tente, au détour d'un chemin, au coin de leur rue ou à l'intérieur de leur maison. Abraham, comme Marthe, ont l'habitude de le voir dans le paysage, de parler avec lui, et ils ne sont donc pas plus surpris que cela de le voir un jour débarquer chez eux. Abraham n'a donc aucun doute quand il reçoit la visite de trois étranges étrangers sous les grands chênes au pied desquels il a installé sa tente. Il ne se pose alors aucune question. Pour lui, c'est le signe que Dieu le visite. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort n'a ici absolument aucune importance. Ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre sa logique, qui est la logique de la foi. Sa foi, celle qu'il a mise en route, celle qu'il a ouverte à de si larges horizons, est exactement celle qui lui permet aussi de ouvrir ses bras et d'accueillir tout grand les étrangers dans sa petite vie de nomade, comme si Dieu lui-même le visitait. Quant à Marthe, c'est aussi ce qui la distingue, de manière tout à fait significative, dans les deux évangiles qui évoquent sa haute et puissante figure de maîtresse-femme. Elle non plus n'a aucun doute et ne se pose aucune question. Elle sait, avant tout le monde, que Jésus de Nazareth est le Seigneur. C'est ainsi, et ainsi seulement qu'elle le nommera, que ce soit dans l'évangile de Luc que nous venons d'entendre, ou dans l'évangile de Jean, dans lequel elle apparaît aussi, au moment du récit de la résurrection de celui qu'on appelle son frère Lazare. Elle sait qui est Jésus, et elle le lui dira fermement et sans ciller dans l'évangile de Jean, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » C'est la seule de toutes les femmes, et j'ajouterai de tous les hommes, de tous les disciples du Christ, c'est la seule à avoir parlé si haut, si clair et si ferme, et qui n'a jamais douté, pas même au moment de la mort de son frère, de la puissance divine de vie qui était présente dans la personne de son ami Jésus. Abraham et Marthe, que l'un soit plutôt nomade ou que l'autre soit plutôt sédentaire, sont donc unis par une même foi qui leur donne de voir derrière le visible le Dieu invisible qui se donne à voir. Et c'est, je crois, l'une des puissances de la foi, de croire et de penser que le réel est habité par le spirituel et que l'ordinaire même d'une simple visite peut être le lieu où Dieu nous visite. Que dans ma tente ou dans ma maison, Dieu peut apparaître sous les traits d'un inconnu. Que l'inconnu majuscule prend le visage des inconnus minuscules que nous pouvons être les uns pour les autres. Et oui, aux yeux de la foi, la sphère céleste elle-même est soumise à l'attraction terrestre. Et donc Abraham comme Marthe vont accueillir leur hôte avec le faste qu'ils pensent devoir donner à une rencontre de ce type. Sauf que, pour Abraham, c'est très facile. Il n'a qu'à claquer des doigts pour que tout le monde s'exécute. Et quand il dit à ses visiteurs « Je vais vous chercher à manger », on le voit, la phrase d'après, foncer vers Sarah, sa femme, pour lui donner des ordres. « Pétris la farine, fais-en des galettes !» Et ensuite, il court chercher la viande. Évidemment, à cette époque-là, il n'y a pas de Migros en bas de chez lui. Qu'à cela ne tienne, un serviteur suffit, il en attend, pour exécuter la bête et préparer le barbecue. Bref, le pater familias de l'Ancien Testament, mais aujourd'hui encore, selon son rang et son statut, ne s'occupe pas des tâches domestiques. Il n'a qu'à donner des ordres à sa femme, autant qu'à ses serviteurs, qui, à sa femme ayant toujours fait partie de ses servants. Or, et c'est ça qui est absolument génial, c'est que l'évangéliste Luc, lui, raconte exactement la même histoire de l'hospitalité donnée, mais cette fois-ci du point de vue de celle qui s'exécute, du point de vue de la femme, du point de vue de Marthe, qui n'a, elle, personne sous ses ordres, mais qui va se mettre en quatre pour servir son hôte. Et c'est absolument magnifique que cet évangéliste Luc mette ainsi en scène la fatigue d'une femme qui fait une scène. Une femme qui n'en peut plus de ses louches, de ses casseroles, de sa cuisine, de servir, fût-ce le Seigneur lui-même. Et qui le dit haut et fort. Et c'est absolument extraordinaire qu'à cette époque et dans ce milieu patriarcal, on a beau être quelques siècles après Abraham, c'est exactement le même milieu qui a perduré depuis des siècles et des siècles, et pendant des siècles et des siècles. Eh bien, c'est extraordinaire qu'on raconte l'histoire de cette femme au bord de la crise de nerfs, à deux doigts de jeter son tablier devant l'invité lui-même. Cela ne te fait rien que je fasse tout le boulot. Alors, messieurs, je salue ici celui d'entre nous qui a échappé à cette question fatale. En général, vous le savez aussi bien que moi, on a intérêt de fermer notre journal, de fermer notre ordinateur, de nous mettre au garde à vous et de se mettre au service de nos épouses quand ce genre de question nous est posée. Mais Jésus, lui, n'en fait rien. Il ne se démonte pas tout en comprenant la fatigue et l'exaspération de Marthe. « Marthe, Marthe, lui dit-il, c'est une extraordinaire marque de tendresse dans le dédoublement de ce prénom. Marthe, Marthe, tu te tourmentes, tu t'agites de tous les côtés quand une seule est nécessaire. Marie l'a trouvée et personne ne la lui enlèvera. » Alors, à votre grande déception, j'espère, je vous épargnerai toute l'encre qu'a fait couler cette seule phrase du Christ. C'est absolument passionnant, mais il me faudrait commencer une nouvelle prédication et nous n'en avons plus le temps. D'autant plus que vous en avez déjà entendu un certain nombre sur cette histoire tellement célèbre où 3 fois sur 4, on finit par opposer les contemplatifs aux actifs, en disant que les contemplatifs ont tellement raison de contempler, tandis que les actifs ont tellement tort, n'est-ce pas, de s'agiter dans tous les sens. Or, je ne pense absolument pas que ce soit le cœur du sujet. Ou disons qu'on peut éviter cette lecture binaire qui, au lieu d'apaiser, ne fait qu'exciter l'animosité des uns à l'égard des autres et l'incompréhension générale. Alors, soulignons simplement 2 choses, et c'est sur ceci que je m'arrêterai. D'abord, la tendresse du Christ pour Marthe. Il ne lui dit pas qu'elle a tort de s'énerver, il ne lui dit pas que ce qu'elle fait est inutile, il ne lui demande même pas de poser ses louches et ses casseroles à la cuisine et de venir rejoindre Marie à ses pieds dans le salon. Il lui fait simplement remarquer son agitation, son excès de zèle. Et pour nous, nous tous, j'en suis persuadé, qui sommes toujours plutôt dans l'hyperactivité que dans la sous-activité, c'est une très précieuse leçon quand, épuisés par nos tâches, trouvant que les autres pourraient en faire un peu plus, c'est toujours l'impression et le symptôme qu'on en fait trop, on laisse l'amertume et la rancœur nous envahir. Et si c'est ce que nos activités où notre suractivité génère, alors en effet, arrêtons-nous. Ne nous excitons pas et laissons les autres tranquilles. Il vaut mieux ne pas encombrer les autres de nos énervements. Et c'est absolument magnifique, un Christ qui ne fait pas l'apologie de l'excès de zèle, mais qui nous met en face de nos propres responsabilités quand nous succombons devant la lourdeur de tâches que 3 fois sur 4, nous nous sommes imposés à nous-mêmes, que personne n'attendait ni même n'exigeait de nous. Oui, c'est formidable d'avoir un Christ qui nous demande juste de nous calmer, de ne pas en faire trop. Et c'est ce qui peut nous amener à penser, pour croiser une dernière fois les deux récits d'Abraham, de Marthe et de Marie, qu'Abraham, lui non plus, n'avait pas non plus besoin d'imposer à Sarah les lourds devoirs de l'hospitalité, parce que ça n'aurait strictement rien changé à la grâce qui leur a été faite à tous les deux. L'annonce qu'ils allaient avoir un fils leur aurait été donnée, qu'ils reçoivent ou non ces visiteurs étrangers. Ça n'aurait rien changé à la grâce qui leur aurait été faite. Ça n'aurait rien changé à l'amour dont ils étaient aimés. De sorte que l'on peut dire que ni Marthe, ni Abraham, ni aucun d'entre nous ne sera moins aimé si on consent à en faire un peu moins dans la vie. Amen. Aujourd'hui, un peu exceptionnellement, nous allons célébrer la scène, car hier après-midi, j'ai reçu de la part de mon ami, d'une amie, le message qu'une nouvelle nappe de table de Sainte-Seine était arrivée et qu'elle nous l'offrait. C'est une nappe qui a été faite sur mesure, pour nous, brodée par une femme qui pourrait s'appeler Marthe si elle ne se prénommait Michelina. Une femme qui vit dans les environs d'Amarante, au nord du Portugal, et qui est à la fois agricultrice et couturière, qui sait donc faire à la fois le pain et le vin et la nappe qui les reçoit. Et mon amie m'a dit que c'était quelque chose de très important pour elle de broder une nappe qui recouvre désormais la table de communion de la cathédrale Saint-Pierre à Genève. Elle lui a dit « c'est aussi important que la cathédrale de Porto, le chef-lieu de son arrondissement ». Alors rien de plus naturel que de l'inaugurer aujourd'hui, avec beaucoup de reconnaissance pour celle qui nous l'offre, beaucoup de reconnaissance pour celle qui l'a réalisée et qui, je l'espère, pourra un jour venir l'admirer sur place. Nous tâcherons de l'inviter. Se retrouver autour de cette table nous rappelle aussi, après avoir médité l'évangile de ce jour, que si on a rarement vu le Christ dans les cuisines des maisons où il entrait, eh bien, cela ne l'a pas empêché de donner beaucoup d'attention, d'amour, par sa manière si particulière d'écouter et d'accueillir avant de parler et avant d'agir. Il y a de bonnes raisons de penser que, quand il entrait dans une maison, on croyait le recevoir, mais la vérité, c'est que c'est lui qui recevait. On croyait lui offrir l'hospitalité, mais en vérité, c'est lui qui offrait la sienne. Et aujourd'hui encore, c'est la même chose. On prépare tout, on s'affaire, on s'agite, mais c'est lui qui nous accueille. Et il accueille celles et ceux parmi nous qui s'affairent à des tâches compliquées, comme celles et ceux d'entre nous qui préfèrent rester assis à ses pieds et l'écoutent, sans apparemment rien faire d'autre. Mais ce n'est pas toujours facile d'écouter. Lui connaît les cœurs et les raisons de chacun, et il n'exclut personne de qui veut prendre place autour de sa table. Alors ensemble, je vous invite de joindre vos voix à la mienne pour exprimer cette reconnaissance par le chant numéro 43. Nous allons en chanter les trois strophes, et durant ce chant, ce sera aussi l'occasion pour vous de donner à travers l'offrande qui est maintenant recueillie. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez, buvez, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous donnes, pour ce pain et ce vin qui sont le signe de ton amour pour nous tous. Nous voulons te demander de nous apprendre à partager comme toi tu partages, à donner comme toi tu donnes, et à aimer comme toi tu aimes. Et nous nous confions à toi, nous nous recommandons à ton amour. Donne-nous de faire de nos foyers des lieux de paix, de joie, des lieux de don et non de sacrifice. Donne-nous de comprendre qu'il y a plusieurs manières de donner, de servir, et accepter celle qui nous revient en partage, sans chercher à l'imposer à tous. Nous te nommons dans le silence de nos cœurs, celles et ceux pour lesquels nous sommes en souci, celles et ceux qui se sont recommandés peut-être à notre prière. Tu te tiens auprès d'eux comme tu te tiens auprès de chacune et de chacun d'entre nous, c'est là notre foi. Et en communion avec tout ton peuple, rassemblé à travers le monde, qui tourne cœur et âme vers toi pour recevoir non seulement le pain et le vin du royaume, mais la parole qui fait vivre, nous te disons cette prière qui nous rassemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Ce pain que nous rompons, et communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, et communion à sa vie, qui éclaire et nourrit les nôtres. Que l'Esprit du Seigneur soit avec nous tous, pour que, dans ce pain, dans ce vin, nous recevions en nous les signes de sa paix, de son amour et de sa vie. Dans l'Apocalypse, il y a un verset que je répète à chaque fois que nous prenons la scène les uns avec les autres. Il dit ceci: « Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » Et ce que je trouve chaque fois de très beau et de très émouvant dans ces quelques versets, c'est que le Christ se tient dehors, il est à l'extérieur, et il ne tient qu'à nous de le faire entrer. Nous ouvrons, il arrive. C'est très simple. Alors je vous invite à vous approcher, si vous le désirez, de cette table. Nous allons vous distribuer le pain que j'ai pris soin ce matin d'aller chercher dans une boulangerie portugaise de Genève. Donc non, ce n'est pas le pain tessinois auquel vous avez l'habitude, mais vous allez voir, c'est aussi magnifique. Et les coupes vous seront servies par les amis qui sont là. Les rubans bleus indiquent les jus de raisin. Voilà, je vous invite à vous approcher sans attendre, en partant depuis le fond de la cathédrale, s'il vous plaît. Voilà, il me reste simplement à vous remercier, à remercier Dieu aussi pour ce moment qu'il nous a donné de passer ensemble et avec lui, de vous souhaiter aussi un été riche de belles rencontres. À chaque fois que nous avons le privilège de donner la communion, on voit tous vos visages venus du quatre coins du monde défiler. On se dit, vous êtes tous porteurs du Christ en vous, et c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire de pouvoir en être convaincu, alors que vous puissiez aussi porter cette conviction auprès de celles et ceux que vous allez rencontrer tout au long de l'été. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction qui est celle que vous connaissez. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage et qu'il vous donne sa paix. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.